For the first time in a long time, the New York Knicks are making noise in the Eastern Conference.
Obi Toppin, they're going to love him in New York.
I think so.
Barrett tries a three. Bang! R.J. Barrett from downtown.
Shaking and baking.
And Randall is absolutely torching him.
Randall tries a long three.
Come on, yeah. Come on.
Young niggas, that enough?
Give me some more.
Young niggas want the wild shit?
Give me some more.
Hey, Spliff, where the weed at?
Give me some more.
I know young niggas need that.
Give me some more.
Even though we getting money, you can
give me some more.
With the cars and the big crib.
Give me some more.
Everybody spread love.
Give me some more.
If you want to, let me hear you say.
Give me some more.
Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, amis des Knicks, bonjour ou bonsoir. C'est avec un énorme plaisir qu'on vous reçoit avec l'équipe du podcast The Knicks Episode pour le volet numéro 11 avec Joanny comme d'habitude. Salut à toi.
Salut, salut.
Salut Julien.
Salut, salut les gars.
Et en fait, on est vraiment ravis. On vous l'a teasé un petit peu lors de 2-3 lives Insta. Mais oui, nous avons un invité de choix aujourd'hui, en la présence de Julien Barthélémy. Salut Julien.
Salut la famille, comment ça va? Ça fait longtemps, mais ça fait plaisir.
Quel plaisir.
Ah ouais.
Julien Barthélémy, donc CEO de Sports US Travel, père fondateur de notre association Knicks Nation France, et président d'honneur d'ailleurs de notre association. Bah écoute, on est vraiment ravis de te recevoir aujourd'hui, et puis d'avoir un peu ta vision de ton équipe de cœur. Les gars, on va juste donner la trame de l'épisode du jour. Donc on va évoquer bien évidemment la trade deadline, on va évoquer le début de saison des Knicks, mais surtout avoir l'avis de Julien Barthélémy, parce que c'est vrai qu'on l'a déjà un petit peu, nous, exprimé à gauche, à droite, sur nos différents réseaux. Je tenais vraiment à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Vous interagissez vraiment avec notre association, et c'est toujours un plaisir de commenter l'actu Knicks avec vous. Donc continuez à nous donner de la force, c'est très important pour nous. On va évoquer évidemment nos attentes, parce que là, ça y est, la mi-saison est passée, ce qui nous attend en termes d'ajustement potentiel sur des buyouts. Mais voilà, on a la couleur de notre équipe, et c'est celle-ci donc qui va terminer la saison. On va commencer le tour de table avec, dans un premier temps, Joanny, pour évoquer très rapidement la trade deadline. Est-ce que tu peux un petit peu nous évoquer le mouvement qui a été effectué?
Ouais, bon, ça n'a pas été extraordinaire. Hein. Il y a à chaque fois beaucoup d'attentes, beaucoup de hype sur la trade deadline. Côté Knicks, c'est souvent assez calme. Hein. On ne fait pas de move révolutionnaire le jour de la trade deadline. On a publié un petit long article sur le blog de l'asso. Vous pourrez aller faire un tour si vous voulez, mais... voilà, dans l'histoire des trade deadlines, c'est rarement le moment où les Knicks chamboulent tout. Cette fois-ci, en 2021, une équipe qui se porte plutôt pas trop mal, ils ont décidé de reconduire, de faire confiance à l'effectif en place. Est-ce que c'est une bonne décision ou pas une bonne décision? Je pense que l'avenir le dira à la fin de la saison. Mais il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. On a juste exfiltré Austin Rivers, qui était en DNP depuis un bon petit moment et en congé paternité. Accompagné de Ignas Brazdeikis. Alors si vous ne connaissez pas Ignas Brazdeikis, c'est pas grave non plus, hein. On l'a pas vraiment beaucoup vu à l'œuvre tout le maillot Knickerbockers sur les deux dernières saisons. C'était l'acolyte de RJ Barrett, un Canadien, mais pas que. Alors je crois qu'il avait du sang lituanien, ou bref. ouais, c'est ça, lituano-canadien, drafté au second tour 2019. Qui a plus passé du temps avec l'équipe de G-League ou à l'entraînement que réellement sur les parquets avec les Knicks. Donc voilà, donc deux joueurs qui nous disent au revoir, et une opération qui fait venir dans un deal à 3 avec OKC et les Sixers, Terrence Ferguson. Très très rapidement, Vincent Poirier, qui est arrivé, mais il a été coupé dans la foulée. Alors, il a juste eu le temps de changer son profil sur Twitter en mettant « Je suis un Knicks » et « Au revoir, je ne suis plus un Knicks ». Bonne chance à lui pour une carrière NBA qui est un petit peu compliquée, hein, qui a du mal à vraiment décoller après un passage aux Celtics mitigé, et puis un passage aux Sixers assez anecdotique. Et donc voilà, donc on récupère Terence Ferguson, un arrière, ailier de 22 ans.
Poste de 3, c'est ça, un swingman. Quoi.
Voilà. Bon, qui n'a pas beaucoup, beaucoup joué non plus. Hein. N'attendons pas des choses miraculeuses de sa part. Je sais pas si on le verra réellement dans la rotation, à voir. Et chose tout de même à noter, c'est qu'on récupère des tours de draft dans cette histoire. On récupère deux second tours de draft, un tour de draft en 2021, donc dans la prochaine draft à venir, et un autre en 2024. Donc voilà, donc on récupère des assets par rapport à des joueurs qui ne jouaient plus. Donc rien de très exceptionnel dans cette trade deadline, à mon sens.
Ok, du coup Juju, qu'est-ce que t'en penses du coup du fait qu'il n'y ait pas eu de gros mouvements vraiment marquants durant cette trade deadline? Qu'est-ce que t'en penses toi du coup?
Bah, on l'avait peut-être déjà un peu annoncé que ça ne serait pas une trade deadline avec énormément de moves. Notamment du fait que l'équipe tourne quand même assez bien depuis le début de saison, donc il fallait pas casser l'alchimie pour n'importe quoi. Si, comme on l'avait dit, si un Bradley Beal avait été atteignable, oui, bien sûr, mais c'était inaccessible, et puis je pense qu'ils ont bien fait de pas bouger. Quelques joueurs sont partis sur les réseaux, t'entends et tu dis surtout beaucoup de conneries, donc moi je suis assez content en fait qu'on ait pas trop cassé l'alchimie. Sincèrement, j'en attendais pas grand-chose. Tu avais deux postes peut-être à fournir, c'était un ailier un peu plus référent, un meilleur scoreur, ça aurait été pas mal. Un peu de viande au poste 5, maintenant tu as Noël et Robinson qui revient, donc voilà. J'avais lu Drummond à gauche, à droite, je crois qu'il veut vraiment aller aux Lakers, c'est bon, moi, je peux le comprendre. Si tu avais eu Drummond, je pense que ça pouvait être quelque chose d'intéressant, parce que bon, même si j'aime beaucoup Robinson, je pense que Drummond c'est quand même plus fort que Robinson, surtout il n'y a pas débat, il est meilleur scoreur, meilleur rebondeur, je pense que ça aurait était vraiment impactant, et avec une raquette Drummond, je pense que c'était une bonne idée. Je sais que ça a parlé pas mal de Lonzo, je sais que c'est Joe qui est assez fan. Moi, perso, Lonzo, je n'ai jamais été extraordinairement fan, mais pourquoi pas, si ça n'avait pas coûté trop cher ou quoi, pourquoi pas. J'aurais bien voulu qu'on se débarrasse de Knox, mais après, contre quoi, j'ai l'impression que le gars n'a aucune cote, et on comprend aussi pourquoi. Donc non, franchement, je ne peux pas être énormément déçu. Il n'y avait pas de grosse attente. Si on avait fait un début de saison catastrophique, je t'aurais dit oui, ok, c'était peut-être le temps de bazarder des choses et faire. Un peu comme a fait le Magic, tu vois, où eux, ils se sont dit, bon, on n'avance pas, ils avaient des assets un peu plus importants. On n'avance pas, on casse, on fait autre chose. Nous, ce n'est pas du tout le moment de casser. Renforcer, pourquoi pas. Ils n'ont pas réussi à faire de coups. Il n'y avait pas non plus un milliard de coups, je pense, disponibles à ce moment-là. Donc, dans l'ensemble, plutôt logique. Plutôt logique, et puis surtout ne pas s'emballer sur les noms qu'on voit passer à gauche, à droite.
Oui, ça c'est le lot des médias. Hein.
Donc, je dis toujours à ça de podcast, mais voilà, la réalité c'est pas le mode carrière de Touquet, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Et là, je suis assez serein sur ce qui s'est passé.
D'accord. Et du coup, Julien, toi, qu'est-ce que t'en penses un peu de cette trade deadline côté Knicks? Un non-événement?
Écoute, non, moi je pense que c'est logique ce qui s'est passé. Léon Rose, depuis que Léon Rose est arrivé, il a une ligne claire. Il a annoncé qu'ils allaient se structurer et qu'ils allaient faire les choses de manière cohérente, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps à New York. Donc quand il prend la parole, en général, il faut tendre l'oreille et écouter. Et peu avant cette date-là de fin de transfert, il avait dit que, et c'était les médias new-yorkais qui en avaient fait l'écho, qu'il n'allait finalement pas se passer grand-chose. Je pense que c'est ce qui s'est passé. On est habitué au panic move un peu chez nous. Il fallait surtout pas tomber là-dedans. On a une équipe qui étonnamment fonctionne. Et ça, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a peut-être 2-3 explications assez simples au final pour expliquer les résultats. Mais non, pas déçu. Alors, moi, je suis un peu sur les réseaux sociaux. Alors, je voulais déjà faire une petite parenthèse. J'ai entendu dans le générique que c'était le 11e podcast. Je ne sais pas si c'est fait exprès de m'inviter sur la 11e numéro de Franck Tilikina, vous savez. je pensais par contre qu'on allait fourguer là, cette espèce de lot Austin Rivers, Knox et Frankie. Je pensais vraiment qu'on allait les saquer, enfin les envoyer bouler. Voilà, les envoyer bouler, ce qui aurait été à mon avis assez logique. C'est des joueurs qui soit ne sont pas rentrés n'ont pas pris le train depuis 4 ans. Ils avaient 4 ans pour monter dedans, ils ne sont pas vraiment montés dedans. Ou pour Francky, il faut quand même avouer que de manière très parcimonique, il arrive à faire des bons matchs. Mais bon, un bon joueur NBA, ce n'est pas un match sur 10. C'est la difficulté, c'est que pour être un joueur confirmé en NBA, il faut jouer tous les soirs de la même manière. Et Franck n'y arrive pas. Au bout de 4 ans, c'est quand même très problématique. Donc je pensais vraiment qu'on allait se débarrasser de ça, même contre des tours de draft. Il y avait clairement un step-up sur le poste 1, sur le poste 2-3. Ça dépend comment on voit R.J. Barrett. C'est vrai que, comme a dit Juju, moi je suis d'accord. Moi j'adore Bullock. Hein. Vraiment, il donne satisfaction. C'est un joueur propre, c'est un joueur qui défend. Mais sur un poste de titulaire, quand même, c'est dur. Même si il prend ce rôle et il fait ce qu'il peut. Il y a une vraie difficulté quand même sur Elfrid Payton. Même si je considère aujourd'hui que en tant que meneur vétéran, c'est le seul qui a vraiment les épaules pour, malgré sa maladresse, continuer à rester agressif, continuer à aller chercher des lancers francs. Il a quand même un impact sur le jeu qui flirte entre le positif et le négatif. Donc j'aurais aimé voir un autre meneur, clairement.
Plus tard, l'été prochain.
Voilà, plus tard, je pense que la patience dont fait preuve Leon Rose m'inspire confiance, parce que aller chercher des Oladipo ou des mecs comme ça, je me rappelle trop du transfert pour Carmelo Anthony. Parce qu'avant que Melo arrive, on avait réussi avec des joueurs autour de Stoudemire, on avait réussi à créer quelque chose avec des jeunes joueurs et avoir des résultats, et puis on a décidé de tout casser pour avoir Carmelo Anthony. On connaît la suite. Donc là, il fallait pas répéter. Le but, c'est de redevenir attractif, redevenir une équipe qui gagne et qui a de l'ambition, ramener les playoffs à Madison Square Garden. On est en train de le faire en un an. Je pense que c'est sage de la part de la direction. Par contre, il y a un truc, moi, qui a tendance à m'énerver quand même sur les réseaux, et je voulais le dire. En fait, on a l'impression, quand on entend parler les fans des Knicks, on a l'impression qu'on a des fans des Lakers, en fait. Des gens qui ont été sevrés de grands joueurs, qui ont vu des Shaquille O'Neal, des Kobe Bryant, des gens comme ça. Et quand le nom de André Drummond est venu, on a une levée de bouclier en disant « Mais non, il est dégueulasse. » Oh les gars, c'est André Drummond. Il a deux Mitchell Robinson dans chaque jambe. C'est un mec qui tourne en 15-15, c'est un mec qui n'a jamais été bien coaché, c'est un mec qui n'a jamais eu de vrai bon meneur, mais qui a surtout jamais été très bien coaché. Mais c'est un joueur, enfin...
Il y a moyen d'en faire quelque chose, quoi.
Non, mais...
Et si vous vous rappelez, quand Robinson l'a joué contre Cleveland, il s'est fait démonter.
Il s'est fait manger,
Drummond, il a fait un 20-20, enfin, c'était son fils. Il a dit, bon petit, viens, je te prends la raquette. Non, mais sérieusement, il l'a démonté. Donc je suis complètement d'accord
avec les gens font la fille, les gens font la fine bouche sur les réseaux parce est trop blessé, un tel est trop vieux.
Non, il y a toujours aussi la peur de la compensation. Qu'est-ce qu'on perd, tu vois, si on fait venir Drummond. Les Knicks ont quand même fait le nécessaire pour se doter d'un spot supplémentaire libre avec un cap space de 16 millions. Qui peut permettre à l'équipe d'être en phase s'il y a une opportunité qui s'ouvre à elle.
D'ici qu'on publie le podcast, ça se trouve Drummond il va signer aux Knicks.
Il va aller aux Lakers.
Personnellement, j'y crois pas, mais.
J'y crois pas non plus, mais voilà, en tout cas, il reste un spot.
Pour cette saison, honnêtement, il faut arrêter.
On se donne cette opportunité-là.
Je pense que pour cette saison, il faut se dire, on a un effectif, il est là, on va aller au bout avec cet effectif-là. S'il y a une opportunité d'un truc, j'y crois pas trop. Et voilà, les gars. Et moi, je pense que cet effectif. Comme a dit Julien tout à l'heure, ouais, on a un peu le cas, Randle, c'est un peu le Stoudemire de notre époque, avec des gars autour qui fit et voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Déjà, on arrive à mettre de la sérénité à New York et à accrocher les playoffs, t'envoies un message à la Ligue de positif, t'envoies un message à la Ligue tranquille, et ils disent pas, ouais, c'est bon, New York, c'est toujours New York, ils refont de la merde. Non, on fait pas de la merde cette année. Donc oui, on n'a pas fait non plus de la merde à la trade deadline. Voilà. Après, les réseaux sociaux, surtout à New York et sur les fans des Knicks, bon, des fois, on a un petit peu des petites puces farouches, tu vois, qui veulent absolument avoir des grands joueurs venir, mais on va pas. Déjà, c'est irréalisable. Et de deux, faut se remettre en, d'où on part de ces dernières saisons, d'où on part même en début de saison, on s'attendait pas à ça. Moi, je trouve que le plan est cohérent aujourd'hui.
Et je rebondis là sur ce que tu disais tout à l'heure, alors Julien, concernant la sérénité de Léon Rose, il y a coach Thibodeau justement qui est monté au créneau durant une de ses interviews récentes là, et qui félicitait justement la maturité du board face à la situation, parce qu'avec la flexibilité qu'on a sur notre franchise, on aurait pu avoir pas mal d'opportunités, faire le forcing pour amener certains joueurs. Il y a eu pas mal de négociations. Et coach Thibodeau était vraiment satisfait de l'état d'esprit de l'équipe qu'il avait actuellement. Et il est vraiment content de continuer l'aventure. Donc si en plus on a le coach qui est en phase avec le board, je pense que voilà, ça coïncide avec un projet qui part dans le bon sens, à mon avis. Quoi.
Non, mais Léon Rose, de toute façon, c'est le prototype aujourd'hui du directeur des opérations basket qui réussit en NBA, c'est-à-dire l'ancien agent. On a la même chose à Los Angeles, chez les Lakers. Moi, je pense que du moment où quelqu'un a une ligne directrice et reste attaché à ça, le projet ne peut être que cohérent derrière si le choix des hommes, il est intelligent. Et au final, je te dis, je te donnerai mon sentiment tout à l'heure, mais par rapport au management, en fait... Bon, les résultats sportifs restent une surprise par rapport à la qualité de l'effectif. Mais sur la direction, on a vu le chemin, il a été tracé par les Brooklyn Nets. Les Brooklyn Nets, quand ils se sont fait plumer par les Celtics, ils sont repartis, mais vraiment de même pas de zéro. Ils étaient à moins 10. Mais ils ont pris un coach qui avait des idées, qui tactiquement était bon, qui savait utiliser les jeunes, mais qui avait surtout une grosse culture basket. Et derrière, ils ont fait quelques paris, mais ils sont repartis avec un noyau de joueurs et c'était hyper bien coaché. Ils sont redevenus attractifs et finalement, ils ont réussi à revenir en play-off. Et voilà, et maintenant, ils ont James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant. C'est comme ça, en fait. C'est un processus. Mais le processus, il faut l'accepter, en fait. Il peut être court, mais ça peut prendre des années aussi. Il faut juste avoir la patience. On ne l'a pas toujours à New York. Mais bon, sur ces 20 dernières années, regardez les saisons qu'on a vécues et profitez, en fait. Et après, quand un joueur comme Drummond arrive sur la table... Plutôt que de parler de Mitchell Robinson, qui quand même, j'ai pas l'impression que ce joueur a progressé cette année.
Non.
Je ne dis pas qu'il ne va pas progresser, ça se trouve, et je pense qu'il a vraiment le potentiel, aussi bien physique, athlétique, qui est complètement dingue. Il peut devenir demain un Drummond, mais aujourd'hui il ne l'est pas. Et c'est un joueur qui n'a pas progressé cette année. Voilà, dans les stats, quand il fait... Son dernier match à Washington était plutôt intéressant, mais souvent, c'est du 8-8, c'est du 10-10. Voilà, c'est bon, mais c'est pas non plus... il faut pas le comparer à André Drummond aujourd'hui. Donc, si tu as cette opportunité d'avoir Drummond et de l'avoir pour 2-3 ans, en gardant Mitchell Robinson sous le coude, quand Drummond... Mais quand Drummond part, Mitchell Robinson, il a 23 ans ou 24 ans. Donc, voilà, c'est... Je n'arrive pas à comprendre ça. Des joueurs qui sont des bons joueurs, qui sont des joueurs confirmés en NBA, qui sont des vétérans solides. Voilà, Drummond, après, il a joué aux Pistons et aux Cavaliers. C'était du tanking chaque saison. Comment tu veux qu'un joueur soit impliqué ? C'est le cadre que tu donnes aux joueurs. Drummond, il n'y a jamais eu de cadre où on joue la gagne, en fait. On a un objectif et on joue la gagne. Il n'a jamais été là-dedans, donc on ne peut pas juger André Drummond et les choix parfois un peu étranges qu'il fait pendant les matchs à faire un stop shoot à 3 points. Voilà, il le fait parce que de toute façon, l'équipe est censée perdre. Donc il n'y aura aucun impact sur le fait qu'il prenne 1, 2 ou 3 tirs à 3 points dans le match, puisque de toute façon, le résultat, c'est que l'équipe doit perdre. Voilà, donc ouais, c'est un peu le coup de gueule que j'avais, parce que franchement, ça m'a saoulé quand tu vois les... Quand tu vois sur les 20 dernières années les équipes qu'on a eues de tocards et que les mecs sont là à dire « Oh non, Drummond, non, surtout pas, au secours, on ferait une grosse erreur, le management, ça serait des brels et tout. » Oh les gars, non mais on s'est regardé dans le miroir, tu vois ce que je veux dire ? Regardez-vous dans le miroir, regardez les joueurs qu'on a eus.
La question à chaque fois à se poser, c'est est-ce que tu upgrades ton roster ou pas, quoi ? Est-ce que tu apportes de la valeur avec tel ou tel joueur, quoi. Après, il y a des joueurs qui ont des profils de jeu, on aime ou on n'aime pas. Tous on a des préférences sur certains joueurs, même des joueurs stars. Mais voilà, après la question c'est quand tu apportes ce joueur dans l'équipe, est-ce que tu renforces ton équipe ou au contraire est-ce que tu la pénalises, quoi. Ah bah et avec moi, un Truman dans l'équipe, bah non, je vois pas comment tu peux la pénaliser. Après, bon, évidemment, ça pose des questions sur le développement des uns plutôt que des autres, quelle priorité tu donnes sur tel ou tel joueur. Mais clairement, tu step up, tu fais progresser ton effectif avec un ajout de la sorte, quoi.
Et puis Robinson, c'est un joueur fragile, hein. Robinson, c'est un joueur fragile, qui souvent les chevilles, etc. Ça tombe souvent. Donc là, on va se retrouver avec Noël et Gibson si Mitch se reblesse. T'imagines qu'il se blesse pour 4 ou 6 semaines, on est tout de suite dans la merde. Hein. Donc,
alors que Thibodeau s'appuie vraiment sur un vrai poste 5, hein, dans ses schémas de jeu. Quoi. Donc,
sûr.
Et puis Noël, non, il ne sait pas attraper le ballon, donc c'est super chaud quand même. Hein.
Alors, il joue avec deux raquettes de ping-pong à la place des mains, donc c'est compliqué.
Il n'a que sur la période défensive, Noël. Et c'est vrai qu'offensivement, on en a déjà parlé. Tu joues
non,
à 4.
C'est dur. Hein.
Ouais, tu joues à 4 dur. Et lui, il est là pour prendre leur bon off et puis basta. Mais c'est vrai que Noël, il pouvait attaquer des deux côtés du panier, bon, on ne l'a pas eu. Et tu sais, sur les réseaux, tu vois même des mecs qui sont archi fans de Knox. Donc tu te dis, bon, en même temps, c'est tout.
Ou fans de Franck.
Ouais, ou fans de Franck, ou les fans de Franck.
Il y en a beaucoup.
Et tu sais que les fans de Franck, t'en as aussi de l'autre côté des États-Unis, quand il va te faire 4 passes dans un match et qu'il a mis 3 points d'affilée 4 ans, t'as l'impression que le gars, ça y est. Donc ouais, les réseaux, de toute façon, c'est qu'il y a à apprendre à laisser. Maintenant, ouais, je suis d'accord, on n'a pas fait de panic move. Au final, on est assez content. Après, les gens ne seront toujours pas contents, quoi que ce soit, ils veulent toujours plus. Après, à New York, ça veut toujours un nom clinquant. Si tu n'as pas fait signer LeBron, bah, de toute façon, tu ne feras pas signer LeBron, ils ne sont pas contents. Donc voilà, aujourd'hui, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Et ce qu'on a est plutôt encourageant quand même.
Ça marche.
Surtout que, au vu des résultats, ça nous permet vraiment d'être patient et de s'asseoir sur quand même une base relativement solide et un état d'esprit qui est vraiment irréprochable. Hein. Mais on va revenir dessus. Moi, je voulais juste relayer là, les deux, trois échanges qu'on a pu avoir, notamment sur Insta, avec un certain Lord Dada que je salue, qui se posait la question. Bon, vous y avez répondu. Hein, c'est pourquoi prendre Drummond, nous avons déjà de bons centres, je ne comprends pas trop le move, ce serait bizarre. Bah, écoutez, on a bien évoqué la chose. Hein.
C'était pas forcément le poste à renforcer en priorité s'il y avait besoin d'en renforcer un, à mon sens, mais s'il y avait vraiment eu l'opportunité de faire un trade, tu bazardes un Ox, hein, parce que on n'a pas non plus énormément d'assets à donner, voilà, c'est à ce moment-là, mais... Je pense que tout simplement, la contrepartie qu'on avait à donner, les Cavs, ils n'en avaient pas envie, ils n'en avaient pas besoin. Quoi. Donc, ça ne s'est pas fait, et voilà, quoi. Mais bon, il n'y a pas urgent, je pense, sur le dossier. Et en même temps, pourquoi pas renforcer, parce que bah ouais, dès que tu en as un qui a la cheville en vrac, commence à tirer la langue. Hein. Gibson, il est vaillant, voilà, mais...
Il rend des services pour ce qu'on lui demande, il rend des services.
Mais... Ah, tout à fait, on peut... difficilement lui reprocher des choses à Gibson. Mais tu te dis, dans une saison qui peut être un peu plus longue que d'habitude, hein, on a perdu cette habitude des playoffs, on va pas se mentir, c'est un peu l'objectif maintenant, mais bah, il va falloir voilà, avoir aussi des joueurs en état.
Et puis avec Thibodeau aussi, on sait qu'il a quand même tendance à jouer sur 8 joueurs.
Hein, Ça tire sur la corde.
Après, moi, ce que je dis, on laissera peut-être Julien parler aussi après de son ressenti, je pense que c'est ce que veut dire Lo, mais tu vois, au poste 5, le problème qu'on a de nos deux pivots, c'est que c'est le même profil et c'est défensif mais très frustre en attaque. Tu vois, je veux dire, je pense que même Noël est encore plus frustre que Robinson en attaque. Et pourtant, Robinson, c'est pas le Joe, tu vois. Mais clairement, nos deux pivots, offensivement parlant, c'est hyper limité. C'est du Tomar, un rebond off et basta. Hein. C'est même au lay-up, ils ont du mal. Donc, c'est quand même assez frustrant.
Ouais, mais après, c'est un peu, tu sais, j'ai eu la discussion avec un coach perso là, qui est du côté de Limoges, que vous devez connaître. Et je lui parlais de ça. Je lui disais qu'effectivement, ce genre de joueur était un peu frustrant. Alors là, je prenais Capella, qui ressemble quand même un peu aux qualités de Mitchell Robinson. C'est-à-dire que c'est des joueurs de pick and roll, etc. Et en fait, il me faisait une remarque juste, c'est que en fait, ces gars-là sont essentiels. T'as l'impression qu'ils sont frustrés et qu'effectivement, si t'as le malheur de leur donner la balle dos au panier, même à 3 mètres, les mecs, ils ont du mal à poster le bonhomme et à lui shooter dessus en se retournant, tu vois. Faire des vrais moves d'intérieur. Mais en fait, c'est plus ce qui est recherché aujourd'hui par les coachs. Les coachs cherchent vraiment des joueurs d'écran qui sont capables de poser des écrans hauts pour rouler et en fait ouvrir tout le jeu. En fait, c'est ça qui est important parce que en fait, du moment où il y a ce pic, ça profite à toute l'équipe et ça ouvre tout le jeu. Alors que si tu donnes la balle en bas, en fait, le gars prise le jeu, en fait. Les y a pas de mouvement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait d'avoir un Mitchell Robinson, même si, effectivement, on peut le trouver fruste, parce que c'est vrai qu'au niveau des mains, c'est chaud, mais il donne énormément de deuxième opportunité sur les rebonds off. Énormément. Il a une énorme activité. Et puis, surtout, il attrape n'importe quoi. Tu lui donnes... Tu lobes, il attrape n'importe quoi. Mais surtout, il ouvre le jeu des Knicks. Alors, nous, le problème, c'est qu'on n'a pas des gros shooters à trois points. Mais Houston, il faut se rappeler de Houston quand il y avait Capella. Si ça arrosait à trois points comme ça, c'est parce qu'il avait justement... quand il roulait au cercle, il aspirait vraiment tout le monde et il ouvrait des spots incroyables.
Ouais, je suis clairement d'accord avec toi. Juste, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a les deux mêmes profils, tu vois, mais trop semblables, entre guillemets, entre Noël et Robinson. Et j'aurais bien aimé avoir un profil un petit peu différent sur le poste 5. Après, voilà, on commence à devenir gourmand. Il y a deux ans, je t'aurais dit que j'étais très content de ça. Mais je trouve que, ouais, un profil peut-être un petit peu plus technique sur certaines phases de jeu, ça serait quand même ce qu'aurait pu apporter Drummond. Je trouve que ça pourrait faire du bien à l'intérieur pour varier un petit peu notre jeu.
Tout ouais, je vois ce que tu veux dire, Juju, mais là, par rapport au résultat de l'équipe. Où vraiment on est assez régulier dans nos victoires et nos défaites, on est quand même à la stabilité depuis un certain moment là. Le fait qu'on ait deux joueurs comme ça d'un profil similaire en poste 5 n'a pas rompu l'alchimie de l'équipe à l'heure où on se retrouvait avec un des deux qui était blessé. Je veux dire, il suffisait qu'il y en avait un qui passait titulaire. Le fond de jeu de l'équipe n'était pas révolutionné en soi quand t'avais Noël ou Mitch sur le parquet en fait. Mais après oui, le fait de pas pouvoir se donner une option supplémentaire pour varier le jeu en fonction de l'adversaire, ça aurait été intéressant. Je vais vous remonter là un commentaire de Trent Streetwise, donc sur Instagram, qui synthétise un petit peu l'état d'esprit des remontées qu'on le reçoit. Donc je vous lis le commentaire, franchement hyper perplexe, donc suite à la trade deadline évidemment. Hein. J'attendais du renfort en vue des playoffs et résultat, on perd Rivers qui pouvait retourner un match en sortie de banc avec ses shoots, etc. Et en échange, deux serreurs de banc de plus. Bon, après, on fait des économies pour plus tard, mais si on se retrouve comme l'été dernier à se retrouver sans personne qui veuille nous rejoindre, on aura l'air malin avec nos 16,6 millions. Et oui, on sera l'équipe la plus riche sans joueur majeur, ou alors on signe Drummond dans les heures et jours qui viennent. Et on se donne une chance de plus d'être compétitif en playoff. Voilà le retour que nous fait Trent Street. Vous en pensez quoi?
Bah écoute, moi je trouve que déjà d'aller en playoff, je serais content et compétitif. Je pense pas qu'on va atteindre les finales de conférence cette année. Deuxièmement, pour Rivers, ça fait combien de temps qu'il joue plus? Il a fait 4-5 bons matchs, mais là il est plus du tout dans la rotation. Ouais.
C'est curieux son cas parce qu'il est arrivé quand même avec un bon état d'esprit.
Ouais, voilà.
Il est arrivé blessé et tout. Et en fait, quand D-Rose est arrivé, il a disparu.
Voilà, il jouait plus. Donc après, je pense que Rivers, c'est aussi peut-être un service qu'il lui rend en lui disant écoute, peut-être qu'à Okisi, j'en sais plus. Il va jouer au moins en trade. Et puis après, les Twix et les Mars qui vont avec, voilà, ça arrange tout le monde. Mais voilà, je pense que c'était ça. Après, d'être ultra compétitif en playoff, là, moi, je veux bien qu'on s'emballe, je veux bien qu'on kiffe, mais restons mesurés quand même. Déjà, atteignons un premier tour de play-off avant de parler d'être compétitif.
On verra la suite après. L'équipe, il faut qu'elle continue de se battre. Je pense que l'équipe, si on va en play-off, qui affrontera les Knicks, ne sera pas forcément ravie de jouer les Knicks au premier tour. Mais il ne faut pas griller les étapes non plus. On ne vise pas de finale, on ne vise pas de titre. Voilà. Déjà, un retour en play-off, ça serait énorme. Ça serait une très grosse marche en avant, sachant d'où on part. Donc après, le côté profondeur de banc pour aller loin en play-off, ça, on laisse ça à d'autres équipes. Hein. Les Knicks
sont... Déjà, c'est la 2h du mat pour voir un match de play-off, franchement, moi, je suis...
Oui, bien sûr.
Alors justement, moi, je suis ravi là, d'avoir Julien Barthélémy pour évoquer la situation. On va faire un petit bilan très rapide hein, de ce début de saison. Donc du coup, à l'heure où on parle, les Knicks... ont 23 victoires, 22 défaites. Ils sont 5e à l'Est, dans un wagon...
Un gros peloton,
ouais, de la 4e à la 8e position. Ce qui est vraiment totalement inespéré. Avec une équipe où on a ressenti des attitudes mais formidables, notamment... la réaction sur le match, je sais plus, c'était contre le Magic ou non, c'était contre le Magic où on gagne vraiment sur la dernière possession avec Bullock,
ouais.
Le contest défensif, l'interception sur Fournier.
Ouais, merci Fournier, quoi.
Et il y a toute l'équipe, en fait, qui saute sur Bullock, sur des contestations d'arbitrage où il y a des chaises qui volent et compagnie, mais on sent vraiment les mecs ultra impliqués vraiment très ambitieux. Et le fait de reprendre plaisir comme ça à voir les matchs des Knicks et voir cette personnalité sur le parquet, c'est vraiment jouissif. Et donc, du coup, Julien, moi, je voulais un petit peu avoir ton ressenti là sur cette équipe. Comment tu la sens cette année? Comment tu vis justement cette saison avec les Knicks?
Bah, écoute, comme je t'ai dit, c'était une grande surprise. Moi, je regarde toujours les previews un peu pour me faire une idée. Dans les différents previews, on voyait les Knicks gagner 22-23 matchs par rapport au talent. Et il faut se rappeler l'équipe qu'on avait la saison dernière. Hein, on avait quand même le Julius Randle de l'année dernière, c'est pas celui-là de cette année. Hein. Il y a un monde entre les deux, c'est même pas les... Enfin, c'était son frère l'année dernière.
Il a remis son cerveau en place et c'est pas plus mal.
Voilà, donc 22-23 victoires, ça me semblait même ambitieux par rapport à la qualité de l'effectif qu'on avait. En plus, j'entendais beaucoup de choses positives sur Topin. Je me suis dit, bon, avec un bon rookie, on devrait arriver à gagner une vingtaine de matchs, mais pas plus. Je trouvais que les previews étaient plutôt cohérents. J'avais aussi... je voulais voir Thibodeau, je pense que c'était une bonne idée parce que Thibodeau, c'est l'ADN des Knicks, c'est gagner les matchs par la défense. Il y a des grosses valeurs. Après, c'est un coach qui a été énorme en 2010. On est en 2020-21, tu vois. Est-ce que ce basket-là, qui avait montré certaines limites dans un basket qui shoot énormément à 3 points, est-ce que ce gars-là était toujours adapté? Effectivement, c'était à sa signature. C'était un bon move de 2010, 2020, gros point d'interrogation.
Ouais, on était tous dubitatifs à son
arrivée. Ah, j'avais voilà. Des gros doutes, hein. Rappelle-toi, j'avais des gros doutes, hein. J'étais le premier à dire.
Moi, j'étais content, moi.
Oui, toi, t'étais content, je le reconnais, mais je l'ai toujours dit, j'avais des gros doutes et je fais mon mea culpa.
Non, mais beaucoup de gens ont eu le doute parce que ça s'est mal fini à Minnesota. Et il y avait le côté, il a pas su évoluer dans son jeu, voilà, il y avait ce côté... vieux coach, quoi.
Mais avec Thibodeau, t'emmènes la culture. T'emmènes une culture, une marque défensive qui colle, en fait, à New York, qui colle au public Madison Square Garden. Donc, ce recrutement est bien joué juste par rapport à la culture que ramène le coach sans avoir coaché un match. Ensuite, la saison débute. Je vois Obi Toppin le premier match. Et je me souviens avoir une discussion avec Daniel. J'ai dit, attention, Obi Toppin, là... J'avais pas vu son premier, moi j'ai vu le deuxième de pré-saison. Il avait fait plutôt un bon match, il avait marqué une dizaine de points. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit à Daniel, attention, ce gars-là me semble très limité techniquement. Il a un problème pour bouger sur le terrain, il a un problème pour situer. Moi, ce joueur, il faut voir, mais j'y crois. Aujourd'hui, j'y crois pas. On est au mois de mars. Malheureusement, j'ai eu raison. J'ai pas toujours raison, heureusement. Mais là, sur le Catopin, j'avais raison de penser que ce mec-là, aujourd'hui, hein, je ne dis pas que dans 2 ans, il se sera acclimaté, il aura compris, etc. En attaque, il a beaucoup de mal, énormément de mal à se situer, à savoir ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit être en périphérie? Est-ce qu'il doit jouer dos au panier? Mais dos au panier est catastrophique parce qu'il a un dribble hyper haut, en fait, et il a du mal à se retourner. Donc, il a des grosses qualités athlétiques, mais qui ne lui servent pas, parce qu'il a un problème où il a du mal à se situer sur le terrain en attaque. Et alors, en défense, j'en parle même pas. C'est pire que catastrophique, quoi. Enfin, il a fait une interception. J'étais choqué, contre Washington. Mais donc, sur le, il faut le dire, je pense que sur le rookie, on s'est trompé.
Sur celui-ci.
Cette année, on s'est trompé. Après, grosse surprise avec Quickly qui apporte vraiment quelque chose. Après, sur mon ressenti global, vraiment, je suis agréablement surpris parce que, justement, je parlais de culture. Alors, tu arrives avec cette culture défensive, donc il y a un message que tu envoies au public en disant, voilà, Thibodeau arrive, la défense va revenir. Après, c'est le message, il faut que les joueurs adhèrent, il faut que les joueurs se mettent dedans et portent le message, portent cette culture-là. Et ben, je pense que tous les joueurs, mais vraiment tous, hein, se sont mis au pli, même ceux qui ne jouent pas, ils sont dans l'état d'esprit, tu le vois sur le banc. Même un Knox qui ne joue plus, il est toujours là, il est toujours... derrière ses coéquipiers. Moi, je trouve que l'ambiance du groupe, malgré qu'il y ait peu de joueurs au final dans la rotation. Et ils sont tous hyper positifs, même s'il y a eu 2-3 sorties. Mais globalement, pendant les matchs, en tout cas, le groupe vit bien, comme on dit, tu vois. Et ça, c'est important. Là où je ne suis pas surpris, par contre, des bons résultats, et c'est malheureusement un constat que je fais depuis des années maintenant, c'est un peu comme l'arbitrage en NBA, c'est que les équipes qui sont bien coachées font la différence facilement, en fait. Et comme tu as peu d'équipes qui sont bien coachées en NBA, bah du coup, tu peux être assez haut sans avoir un groupe exceptionnel en star. J'ai un exemple marquant, c'est Indiana. J'étais en 2017, j'avais eu le privilège d'être invité par Miami, par le Heat, pour voir le match d'ouverture. C'était contre les Pacers et ils venaient de perdre Paul George. Et ouais. Indiana était considéré comme les Knicks. Hein. Ça va tanker, ça va gagner 15 matchs, etc. Sauf que le match, quand je les vois jouer au basket, quand je les vois exécuter, je me dis waouh, ça joue quoi.
Il y a de la décision,
bah, les mecs,
quoi.
C'est ouais. ça. Et les mecs sont allés en playoff parce que. C'est coaché, en fait. Et en NBA, il y a tellement d'équipes qui ne sont pas... Enfin, Washington, c'est une blague. Je prends ces équipes parce que, tu vois, c'est les dernières qu'on a rencontrées. Mais il y a plein de coachs qui sont catastrophiques, Luke Walton, etc. Quand tu tombes sur un coach comme ça, le jeune coach là, de OKC aussi, qui fait un travail exceptionnel aussi avec son groupe, bah, tu te dis que les équipes qui sont bien coachées s'en sortent et les Knicks sont... pour moi, très bien coaché, ce qui explique aussi en partie le bilan, l'application des joueurs à rentrer dans cette culture-là, et surtout, tout le monde connaît son rôle dans l'équipe. Donc, au final, c'est une agréable surprise, parce que sur le papier, avec l'équipe, c'est pas gagné, mais t'as un Randle qui arrive à un niveau où personne l'attend, t'as un RJ Barrett qui commence à devenir le joueur qu'on avait drafté, c'est-à-dire ouais. une future star, hein, puisque quand ils sortent de Duke, c'est une future star. Donc on commence à voir ça, ça commence à se mettre en place. C'est agréable, mais par contre, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un moment où il va falloir commencer à arrêter de croire qu'il faut se renforcer pour jouer les finales NBA.
Chaque chose
on
en
est
son temps.
Knicks. Ouais. On a gagné, allez, 20 pauvres matchs l'année dernière. Il faut, moi je pense qu'il faut être reconnaissant de ce que les Knicks font, c'est-à-dire le board. Il faut être reconnaissant de ce qu'ils font, il faut être reconnaissant de ce que Thibodeau fait, il faut être reconnaissant de ce que les joueurs font, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas énormément de talent dans cette équipe, et pourtant ils sont devant des équipes qui ont...
Ils sont investis à 100%, on peut le reconnaître, ça. Ils lâchent rien, ça c'est grave.
Et juste dire, ok, franchement les gars, on est pas, la saison n'est pas finie, alors oui le calendrier est dur, mais on verra, le calendrier était dur depuis la reprise, ça fait un mois qu'on joue, on est toujours à 50%, donc c'est juste dire... Bravo les gars, bravo, et on vous suit quoi. On vous suit, vous ne faites pas de move à la trade deadline. Ok, mais les gars, vous nous avez amené à une position où on n'aurait jamais imaginé être là. Donc nous, on fait confiance. Continuez en fait, continuez votre travail et on verra plus tard. Mais tu vois, un peu de reconnaissance sur ce qui est fait et là où on en est et pas se prendre pour d'autres. Bien garder à l'esprit, à chaque fois que les Knicks jouent, de se dire on est déjà... À 23 victoires, on aurait dû en gagner 22 sur toute la ouais. saison.
Donc c'est que du bonus.
On est clairement en position pour le play-in. Et puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Julien. Et moi, ce que je kiffe vraiment, c'est que quand tu te lèves la nuque, tu regardes les matchs, l'équipe ne lâche jamais rien. On l'a vu encore contre Washington ou au troisième quart-temps, ça pique les yeux. Tu te dis, bon, vas-y, je vais dormir. Et puis, tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis, bon, allez, pourquoi pas. Et les gars, lâche jamais. La mentalité est là jusqu'au bout. On prend rarement des blowouts. On se fait rarement marcher dessus. Et ça, c'est quand même agréable. Et c'est vrai, comme dit Julien, sur le banc, tu vois que les gars sont concernés jusqu'au bout, que ça encourage. Donc non, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Je vais juste revenir sur le cas Topin. Moi, je vais le fracasser. Je trouve qu'il est vraiment nul à chier. Les gars, à 23 ans, Laurent nous l'a dit l'autre jour, il a 23 ans. Donc, tout le monde est tombé sur Barrett avec bien sûr des attentes plus hautes. Mais bon, il est drafté 8, hein, il n'est pas drafté Topin. Il a 23 ans. Alors, défensivement, on n'en attendait rien. On savait que c'était une passoire. OK. Mais offensivement, tout le monde disait oui, il va tourner à 12, 14. Il est prêt. NBA ready. Là, à New York, tu l'as lu partout. Il est NBA ready. À New York, ils étaient à fond sur lui. Ça voulait trade Randle et tout. Bon, le gars, il rentre. Il est nul. Il est nul à 3 points. OK, on ne s'attendait pas à ce que ce soit un sniper. Par contre, il attaque le cercle. Il part au Tomar là-bas. Il lui glisse des mains. il fait des airballs à mi-distance. Il se retourne, il sait pas ce qu'il fait de la balle. Il fait des passes qui partent dans les tribunes. Le gars, offensivement, c'est catastrophique. Il est perdu sur le terrain.
La chance qu'il a, c'est que on a une équipe qui tourne. Et au niveau de la rotation, on arrive un peu à compenser ces mauvais passages, avec notamment un énorme Randle cette saison. Mais, et la deuxième chance aussi qu'il a pour lui, c'est qu'on a, on a quand même le deuxième rookie.
Il y a Quickley qui fait en sorte qu'on ne se focalise pas sur le boss, tu vois. On se dit, ah, voilà. C'est bon cette année. Mais lui, c'est un boss total. Et surtout, Randle va pas pouvoir tenir 40 minutes tous les matchs à chaque fois, parce que dès qu'il sort, c'est porte ouverte. Tu vois, la différence, elle est flagrante. Si jamais on va en play-in, tout ça, Thibodeau, il fera pas de sentiment. Le Topin, il va le bench tout le match. Mais le problème, c'est qu'après, tu tires un peu trop sur la corde sur Randle. Et sur les derniers matchs, où on est passé pas loin contre qui? Bah, je crois qu'il y a...
Philadelphie et
Brooklyn, tu vois, où Randle, bah, en fin de match, déjà, c'est sa première saison vraiment en franchise, posé et tout, donc il a pas forcément l'habitude d'avoir la balle à ce moment-là, tu vois, le shoot décisif. Et puis le mec, il vient s'enchaîner 38 minutes à donf parce que son remplaçant n'est pas capable de rester 2 minutes sans prendre 10 points. Du coup, en fin de match, si c'est à lui que tu passes la balle, bah, il manque un peu de lucidité. Et moi, je trouve que c'est quand même un vrai problème que Topin soit aussi mauvais, parce qu'il est vraiment mauvais, quoi.
Il y a une erreur de casting à la draft sur ce pic-là, c'est clair.
Encore une fois, quand tu flingues un Franck et tout, moi, je suis le premier à dire que Franck, bon, bah, merci, au revoir. Mais Franck, il est drafté à 18-19 ans. Tu dis, bon, il a encore peut-être du temps. Il est pas bon final. Kevin Knox, c'est pareil.
Ouais. Alors après,
Topin, dans 4 ans, il a 27 ans. Donc, qu'est-ce que tu fais,
si tu veux, d'accord. Bon après, voilà, il a 23 piges, enfin 22-23 quand il est drafté, soit parce qu'il a eu un cursus particulier, il a éclos sur le tard, bon, admettons. Bon après, on s'en fout, c'est un rookie, qu'il soit rookie vieux ou rookie jeune. On attendait plus de production offensive. Il est clairement perdu sur le terrain, tu le sens, tu le vois. Enfin, c'est voilà, il y a jamais de sérénité, même sur les quelques rares occasions où il peut partir en contre-attaque. Et voilà, ça se finit pas bien. Donc, il est barré par Randle. Il n'y a pas eu de Summer League, tout ça. Il n'y a pas eu un gros training camp, donc ça ne l'avantage pas. Après, il y a clairement une erreur de casting parce qu'on a drafté un gars sur le poste 4 et on a Randle qui fait la saison de sa vie. Donc, même si il donnait un peu plus satisfaction. Aujourd'hui, ouais, c'est compliqué pour lui, quoi. Clairement. Est-ce qu'il s'est mangé déjà en keyball? Ça fait un moment, quelqu'un. Est-ce qu'il en sort bientôt? Ben, on espère. Bon, il y a pas d'urgence sur ce poste, si ce n'est qu'il pourrait effectivement faire souffler un peu plus Randle pour qu'il soit un peu plus frais dans les moments chauds sur la fin de match. On lui donne finalement très peu de temps de jeu. Il va se prendre 3, 4, 5 minutes au début du second quart et puis un petit peu au début du quatrième quart. Donc, en termes d'expression, c'est compliqué. Il n'a pas beaucoup de ballons. Mais, il ne donne pas satisfaction. Bon, espérons, je ne sais pas, que la saison 2 soit nettement meilleure. Quoi, mais,
il n'est pas satisfaction, ok, mais c'est, il a la balle. De mon salon, je vois qu'il n'y a pas de sérénité sur le terrain.
Il sent le mec flipper. Quoi. Tu sens qu'il se pose la question, qu'est-ce que je vais faire, bon.
Et on a toujours joué au basket ici à des niveaux... très très médiocre, mais le gars, tu vois qu'il sait pas se placer en défense, il sait pas prendre son joueur, il sait pas faire une attaque contre, il sait rien faire sur le terrain. Tu vois que tout ce que lui demande Thibodeau, le gars, ça a l'air d'être très compliqué pour lui. Je pense qu'il est pas serein en ce moment, ça va être pas simple, mais franchement, quand il est sur le terrain, je fais waouh, c'est compliqué. Il tourne même pas à 4 points par match, c'est catastrophique.
Alors que tout est propice à ce qu'il fasse une bonne intégration, je veux dire, on peut avoir le luxe d'être patient dans le sens où t'es pas titulaire en dépit de position à la draft, t'as quand même pas mal de jeunes autour de toi qui prennent le temps de t'encadrer, t'as quand même les résultats aussi qui fait que bah, y a pas le feu à New York, malgré tout ça, et un coach qui pourtant continue à le mettre dans la rotation, parce qu'il est tout...
Ouais, il aurait pu privilégier Knox sur ce genre de minutes. Il y a des gens qui disent, bah, à un moment, Topin, c'est bien, c'est mignon, peut-être on l'a drafté entre guillemets haut, refilons quelques minutes à Knox, qui fera le jeu qu'il fera, parce que c'est pas les mêmes profils, clairement.
Oui.
Mais au moins, voilà, quand il aura le ballon dans le corner, il en mettra un de temps en temps, quoi. Alors que Topin, voilà, soit il hésite, soit
c'est un ball.
ce qui est vraiment dur, j'imagine, à vivre aussi pour lui, c'est que on n'a pas le sentiment qu'il est son rôle.
Non, c'est ça, ouais. Voilà, sans l'accabler, parce que ça reste un rookie. Bon, voilà, on n'attend pas non plus une révolution avec les rookies dès l'an 1. On voit qu'il part de très loin dans l'effectif actuel. Est-ce qu'il s'épanouirait mieux ailleurs? J'en sais rien. Si là n'est pas la question. Mais j'ai l'impression qu'on joue, on le fait jouer, on fait pas le jouer comme il faut. Quand le jouer, faire jouer au large, c'est,
mais
pas, c'est
a,
pas son truc.
Qui a dit tout à l'heure qu'il était pas très bon techniquement? C'est Julien ou le, enfin bref, quelqu'un l'a dit. Et c'est vrai, techniquement.
Ouais, même poste bas en termes de la façon de se retourner ou autre.
C'est quand même très très faible.
Bon, après, voilà, ça reste un rookie. Il est peut-être plus vieux, mais...
C'est un joueur qui est à l'aise pour attaquer face au cercle. Sauf qu'il part de beaucoup trop loin. Avant, quoi. Non, mais il est beaucoup trop loin. Il est à 2 mètres de ligne à 3 points. Sur Topin, quand même. Alors, je vous l'ai dit, j'ai vu très rapidement un gros manque de technique chez lui qui pourrait poser problème. Après... Effectivement, il a 23 ans, même si c'est un problème assez nouveau, ça, quand on parle de l'âge des rookies à chaque fois. Parce que dans les années 90, la plupart des joueurs faisaient souvent leur cursus complet et arrivaient sur la NBA à cet âge-là. Et ça posait de problèmes à personne, en fait. Mais pour revenir à Topin, il est dans une situation où Randle performe. Lui, il sait qu'à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, la moindre erreur, il peut sortir. Et je peux vous dire que jouer avec ça, puisque je l'ai vécu en tant que joueur, c'est pas évident, tu vois, c'est vraiment pas évident parce que tu sais qu'à la moindre erreur, tu vas être benché.
Tu l'as payé cher, quoi.
Donc il doit être dans cette situation-là où il a mal commencé, mais en même temps, pour se remettre dans le rythme, alors tu me parlais de rookie wall en jouant 5 minutes par match, ça va être compliqué de prendre le mur, tu vois, je pense que là il peut jouer 300 matchs comme ça, 300 matchs tous les deux jours en jouant 5 minutes, ça va le faire. Mais ouais, je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire que pour qu'il règle ce problème, justement, de se situer sur le terrain, de comprendre ce qu'est la NBA, parce que c'est vraiment ça, il faut qu'il ait du temps de jeu. Sauf que même quand les Knicks gagnent de 20-25 points, t'as toujours Julius Randle à 3 minutes de la fin, quoi.
Ouais, ça, c'est dommage. C'est dommage parce que limite, tu files lui un peu de temps et puis voilà, sans forcément perdre de game.
Moi, je pense qu'il faut lui donner du temps. Tu vois, je suis content que Barrett ait du temps de jeu pour emmagasiner, etc. Bah, le problème, c'est que là, il est doublure d'un joueur qui fait la saison de sa vie. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que effectivement, aujourd'hui, c'est nul. Clairement, Topin, c'est nul. Mais c'est un joueur quand même qui a pas été meilleur joueur universitaire pour rien, quand même. C'est un joueur qui a quelque chose, mais qui va avoir beaucoup de mal à l'exprimer, parce que aujourd'hui, les paramètres Knicks aujourd'hui sont clairement pas en sa faveur, et que pour régler ça, il faudrait qu'il joue, qu'il passe beaucoup de temps sur le terrain, et il en a pas l'occasion, et je ne vois pas comment il aura l'occasion d'en avoir plus, quoi. Hein, donc voilà.
Bon, si on a verrouillé la place de play-off en fin de saison et qu'on a un peu des matchs comme ça, mais bon, on n'y est pas encore, quoi. On n'y est pas encore.
Et donc du coup, moi, j'aimerais un petit peu avoir vos attentes pour cette fin de saison.
Donc, nos attentes pour la fin de saison, bah maintenant, on va se cacher, hein. On vise les play-offs, hein. Alors, est-ce que ça passera par les play-in? Est-ce qu'on sera top 6? Je sais pas. Beaucoup de gens disent « Ah, le calendrier, c'est dur, tout ça. Attention, d'autres équipes se sont renforcées. Ça va revenir sur nous. » Voilà, on nous prédit une dégringolade. Moi, au début de saison, je disais « L'objectif, ça serait de jouer les play-in pour montrer déjà une progression et tout. » Donc, finir dans le top 10. Je pense que tel qu'on est parti, sauf gros pépin physique, sauf vraiment incident industriel sur la fin de saison, on devrait finir dans ce top 10, on devrait finir dans ces play-in. Après, si on peut verrouiller directement en top 6, ça serait bien, quoi. On serait plus serein aussi, parce que t'as pas l'air con de finir top 7, top 8 et de te faire botter par un tournoi à la fin sur un match ou deux. Ça serait un petit peu frustrant quand même. Même si on aura montré au final, sur toute la saison, une amélioration, un jeu plus structuré, des joueurs vraiment bien en place et tout, mais ça laisserait une fin un peu bizarre, une fin un peu amère, je serais tenté de dire, de se faire sortir alors qu'on a bataillé toute la saison pour essayer d'accrocher ses playoffs. Donc ouais, moi, c'est la suite de saison, même si le calendrier va pas être si évident, on va encore accrocher des équipes. J'ai regardé un petit peu qui ont joué là sur tous les matchs à venir. On va taper les Bucks. Enfin, taper. On va jouer contre les Bucks ce soir, cette nuit, quand on enregistre. On va avoir le Heat aussi. Alors, le Heat qui est derrière nous aujourd'hui. Hein, donc, faut pas non plus avoir de complexe.
Ils se sont renforcés entre temps.
Ils se sont renforcés, mais alors beaucoup de gens disent ouais, attention, les Bulls se sont renforcés, le Heat s'est renforcé. Certes, c'est vrai. Sur le papier, c'est le cas, il faut que la mayonnaise prenne avec les nouveaux joueurs aussi. Donc on peut peut-être continuer de jouer encore en mode poil à gratter par rapport à certaines équipes, être encore dans le match en fin de rencontre et en récupérer quelques-unes de victoires sur ces rencontres-là. On va jouer les Lakers deux fois. Les Lakers, il faudra voir quels Lakers on va jouer, hein, parce que LeBron est sur la touche, AD aussi. Limite, c'est peut-être pas plus mal de les jouer là en fin de saison avec des effectifs un peu boiteux plutôt qu'en début de saison où ça tournait pas trop mal. Soyons pas plus alarmistes que ça par rapport au calendrier. Si on continue de gagner à peu près notre petite 50% de matchs là sur ce qui reste, bah c'est bon, hein, ça le fait, hein, ça passe. Hein. Donc moi je suis confiant, je suis serein, ça sera peut-être par les play-in, mais je me dis, allez, c'est l'année où on retrouve les play-offs.
Ah, c'est tellement beau. Julien, ton avis, toi ?
Écoute, on a déjà gagné autant de matchs qui étaient prévus qu'on gagne. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un rythme. La clé, ça va être de situer justement sur cette balance des 50%, essayer de faire en sorte de jamais s'en éloigner. Alors, il y a des équipes qui sont renforcées, mais il y a des équipes qui ont perdu du gros aussi. Je pense aux Hornets avec la blessure de la Melo Ball.
Ouais.
Chicago, même avec vous, avec Vucevic, c'est un bel ajout, mais c'est pas non plus LeBron James qui débarque à Chicago.
Il faut, et puis ça part encore calmer. Un peu de loin. Hein. Il y a quand même quelques matchs.
Ça part de loin. Peut-être qu'on va redescendre. Moi, je nous vois dans la photo finish. Moi, je crois de plus en plus qu'on peut terminer sixième. Je te dis parce qu'on est bien équilibré, on est bien en fait. Donc, je suis confiant sur le fait qu'on sera en play-off. Après. Je reste quand même assez émerveillé par le travail qui a été fait cette année. Et je veux rester là-dessus. En fait, je veux me faire plaisir chaque match. On verra bien où ça nous mènera. Mais si on revoit des playoffs à Madison Square Garden, voilà, c'est la cerise sur le gâteau.
Et Juju, du coup ?
Ouais, moi, je serais déçu de ne pas faire les playoffs. Je commence à être gourmand. J'aimerais vraiment la sixième place parce que ça ferait chier d'être septième l'année où tu as un play-in derrière et on ne sait jamais. Après, je suis assez confiant aussi parce que je pense que dans les matchs là contre Brooklyn, tu vois, on a perdu de peu. Il y a une situation où tu vois Kyrie qui est sur le côté, qui regarde Thibodeau et qui fait « Ton équipe, là, t'es jeune, ils sont relous à jouer. » quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va avoir jusqu'à la fin de saison pour toutes les équipes. On va être relous à jouer. Donc, je pense qu'on va prendre des matchs que justement, les équipes qui sont pas trop coachées, qui sont un peu en dilettante, en mode saison régulière, on y va à la cool, pas de système, on y va tranquille, on relâche à un moment donné. Nos gars, ils vont jamais relâcher. À aucun carton, on va relâcher. Être mauvais sur certains cartons, c'est clair, le troisième souvent, mais voilà, on va jamais lâcher. Donc je pense que là, la dynamique, elle est là. J'espère que D-Rose va revenir parce que sincèrement, je trouve qu'il a fait énormément de bien et que quand il est là, l'équipe, c'est autre chose et que ça permet d'avoir une menace offensive plus que juste Randle et que les gars, c'est D-Rose, ancien MVP, on va pas le présenter. Qu'en quatrième carton, si tu dois donner la balle à Diro, ça posera de problème à personne, tu vois. Et qui, à un moment donné, il est capable d'... Et puis, il est encore très, très fort. Thibodeau le connaît par cœur, le fait jouer de la meilleure façon possible qu'il soit. Donc, moi, j'ai hâte que Diro se revienne. Et je pense sincèrement que la place de sixième, elle n'est pas déconnante.
C'est jouable.
C'est jouable. Alors, on va peut-être être plus proche de la septième, huitième à la fin. On verra dans quelques semaines. Mais je pense que sixième, c'est bien. Ça serait une belle récompense d'aller en play-off. Après, tu vois ce que tu fais. Mais voilà, l'équipe, tu le vois, ils vont rien lâcher. Ils vont être chiants à jouer pour toutes les équipes. Et sincèrement, aujourd'hui, quand tu rencontres New York, je pense que les gars, ils disent « Putain, on en a pour 42 minutes à défendre, à avoir des mecs en face qui vont être des morts de faim. » Et tu le vois bien, hein, Washington, ils nous ont mis un petit 15, un plus 17. Ils se sont peut-être dit « C'est la saison régulière, on va y aller. » Bah non. Nous, jusqu'au bout, on les a fait chier, on a gagné le match. Tous les matchs qu'on a joués, les équipes en face, elles sont obligées de se sortir un petit peu. Et c'est de la saison régulière, ils n'ont plus trop l'habitude. Nous, il n'y a pas de saison régulière, on joue comme ça. Et on adore voir cette équipe jouer de cette façon, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense qu'ils ne vont rien lâcher. Cette année, il y a une bonne dynamique. Play-in, je suis quasiment sûr qu'on les fait. Et j'espère play-off qualifié d'office.
Je te rejoins un peu là-dessus. Moi, play-in, effectivement, c'est ce que j'avais prédit suite au bon début de saison que nous allons faire les Knicks. Potentiellement, je vois quand même Boston et Miami qui peuvent encore peut-être nous passer devant si toutefois ça clique bien de leur côté. New York, je pense qu'ils vont aller en play-off. Par quelle voie, je ne sais pas, mais en tout cas, vont aller en play-off. Et surtout, au vu de l'état d'esprit affiché dans les rencontres, on parlait du fait que les joueurs ne font pas d'impasse sur les matchs, même si l'écart est grand. Il y a beaucoup de situations qui ont été renversées par les Knicks. On ne voyait pas du tout dans les années précédentes. Il y a également la communication entre les joueurs. parce qu'en fait le format bulle fait qu'on entend un peu toutes les conversations sur le terrain, les attitudes, on les voit mieux. Durant les temps morts, on veut cette union en fait qu'il y a autour de cette équipe, et on sent vraiment que les gars sont dans un mode commando, quoi. Et ça, c'est vraiment agréable de se lever tous les soirs de match pour regarder cette équipe-là qui m'a emmerdé plus d'une. Et avec cet état d'esprit-là, nul doute qu'on va faire 2-3 upsets. Hein. Voilà mon point de vue, et donc je suis vraiment très, très optimiste pour cette fin de saison, et j'ai vraiment hâte de revoir notre équipe concernée après le mois.
C'est clair que ça va faire plaisir.
Donc les gars, juste pour faire le point, donc effectivement on voit tous notre équipe en playoff. Bah, écoutez, on aura l'occasion de pouvoir multiplier un peu les points de vue. On essaye également de multiplier rendez-vous. On a plein de surprises également en tête, hein, que ce soit sur nos différents réseaux.
Sur Instagram avec le beau gosse.
On essaye en tout cas. Sur Insta, sur Facebook, il y a pas mal de posts intéressants. J'en profite également pour saluer le travail réalisé par Choubix le Gaulois. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu, Joanie.
Le Gaulois. Moi, je suis breton, donc les Gaulois. Hein. mais oui, tout à fait. Bah, on a des membres de la communauté qui s'impliquent, avec qui on partage de la passion et on produit du contenu parfois. Donc c'est vraiment un plaisir. Et oui, effectivement, Choubix le Gaulois, qui est un pseudo, hein, un passionné de la NBA et des Knicks, un gros collectionneur aussi pour ceux qui suivent un petit peu le monde là, des cartes NBA. On en parlera sûrement un de ces quatre. Mais voilà, donc vous retrouvez sur les réseaux sociaux, il est assez actif. Et on a travaillé avec Sébastien, parce que son vrai prénom c'est Sébastien, c'est pas Choubix. Je suis désolé de dévoiler ça, de faire tomber le mystère. Mais on a travaillé avec Sébastien pour produire quelques contenu là sur le blog de l'association, de l'analyse sur Elfrid Payton, parce qu'il y avait pas mal de choses, des gens qui disaient ouais, Elfrid Payton il est nul. Oui, bon, ok, il est nul, mais regardons ça d'un petit peu plus près, regardons les chiffres et tout.
Eh ben, il est nul.
Ce qu'il apporte. Il est nul, oui, il faut relativiser. Allons lire les articles. Peut-être que vous changerez un peu vos
Non, sur Payton, je l'ai lu, la finalité, c'est quand même, quand il est là, on est en minus, donc il est nul.
Ah, la finalité, c'est qu'il a un jeu offensif, ouais. Et qu'il passe passer le ballon, et pour un meneur, bah, c'est un peu
génial. Et voilà, donc bon.
Mais il a quand même, il apporte
pas,
des choses.
Ne spoil pas, Juju.
il apporte des choses, et des fois, il faut arriver à faire un petit peu cette prise de recul, qui n'est pas forcément évidente, mais pour regarder un petit peu... au niveau d'une équipe, quelles sont les forces et les faiblesses des uns et des autres. Mais voilà, donc on a produit d'autres contenus, il y en a d'autres qui arrivent, donc continuez à nous lire, ça sera de la force à nous donner pour continuer à vous apporter des choses intéressantes et complémentaires, en plus de tout ce qui est fait. Et moi, je tiens à saluer aussi Laurent sur l'initiative là, des apéros Instagram. On a lancé ça depuis peu, et ça marche plutôt pas mal. Donc si vous n'avez pas encore de compte Instagram, voilà, on vous demande pas de devenir influenceur ou influenceuse du jour au lendemain, hein, de devenir top modèle ou quoi que ce soit, mais créez-vous un petit compte rapido, allez suivre Nix Nation France, vous y retrouverez du contenu, et puis parfois des moments d'interaction, on vous donne la parole. Le podcast, c'est plus compliqué, voilà, on est plus là avec l'équipe du podcast et quelques invités à partager des avis pendant un temps un petit peu plus long. Mais les lives et les apéros Instagram, on va appeler ça comme ça, c'est le moment, c'est votre moment pour vous exprimer sur ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, ce que vous avez vu, ce que vous aimeriez sur les Nix. Donc voilà, c'est des rendez-vous complémentaires qui arrivent sur ce réseau et sur le canal de communication là.
En tout cas, bah, merci pour le rappel, et c'est toujours un plaisir, hein, de pouvoir échanger avec vous, et on vous donne bien évidemment rendez-vous sur tous nos réseaux, et nous sommes vraiment friands de votre participation et de vos avis. En tous les cas, sur cette saison où les Knicks vraiment occupent le haut de l'affiche, effectivement, la frustration vient du fait qu'on ne puisse pas avancer, nous, sur nos événements historiques en tant que, ouais, en tant qu'association. Donc, oui, la frustration est là, mais par contre, c'est toujours un plaisir et de pouvoir échanger avec vous, ne serait-ce que par visio.
En digital, voilà. L'association et sa raison d'être, son ADN, c'était avant tout les événements en réel, se rencontrer, partager des viewing parties, des voyages, des moments où on jouait au basket ensemble. Ça reviendra. Ça nous manque à tous. Ça reviendra. En attendant, bah, la passion et le fait de vibrer avec les Knicks, ça continue. Et donc ça, c'est le principal, parce que c'est l'essence pour continuer d'avancer. Mais oui, on multiplie, on va dire, quelques interactions en digital, mais les événements reviendront quand on pourra. Donc là-dessus, comptez sur nous.
Bon, mais messieurs, en tout cas, c'était vraiment un plaisir d'avoir pu échanger avec vous pour cet épisode numéro 11.
Alors, numéro 11 comme Francky. Mais moi, le numéro 11 qui m'a plus marqué, c'est Jamal Crawford. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas trop Francky Groupie, vous pouvez peut-être être Jamal Crawford Groupie, G-Cross. Donc, voilà. C'est pas que un numéro 11 pour Francky.
Voilà. En tout cas, dernier mot de la fin, messieurs. Un petit au revoir, un petit coucou, un petit... comme vous voulez, Juju.
On continue sur la lancée. J'espère que ce soir, on va taper les box qui sont en back. Voilà, qu'on continue à kiffer, que mon petit Julius fasse une bonne saison. Puis si jamais, en fin de saison, on pouvait se débarrasser de Nox, de Payton et de Franck, ça serait...
Ça viendra, on verra tout ça après.
voilà.
Patience, on a dit.
Et bisous à tous ceux qui sont fans de ces joueurs. Je sais qu'il y en a, hein, bon courage.
On ne juge pas. Mais voilà, maintenant, petit push pour aller en play-off. Même si ça doit passer par le play-in, moi je suis assez confiant par rapport à ce que je vois. Donc j'ai envie de dire que la saison elle va encore durer un petit peu cette année et c'est pour le plus grand plaisir de voir
ça. Ah si, j'ai juste un petit mot qui
n'a rien. Ah non, trop tard, t'as pas chez Nox.
Mais je remarque quand même que certains sites internet spécialisés basket, entre guillemets, ne peuvent pas s'empêcher de parler des Knicks. Pour n'importe qu'on soit dans l'article ou pas, qu'on ait quelque chose à voir, il y a toujours le mot Knicks. Donc ça me fait bien sourire, parce que ça prouve bien encore une fois que pour cliquer, il faut quand même que les Knicks soient présents. Voilà, c'est tout. C'est dédicace. Hein,
ça fait vendre, ça fait cliquer. Ouais.
Ouais, voilà.
Pour ma part, encore mille fois merci pour le soutien que vous nous témoignez de manière régulière. Et ça, ça nous touche, c'est important, ça nous donne de la force. Un petit coucou également aux collègues des comptes FR là sur Instagram notamment. Je trouve que l'atmosphère y est plutôt bonne et bienveillante.
Bon enfant. Bon enfant.
Ouais, et c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec eux. On a eu notamment le compte FR de Golden State qui est venu participer à un de nos lives. C'était vraiment cool et intéressant. Voilà, c'est toujours très sympa. Et puis nos copains de NBA avec un H aussi que l'on salue, sinon on va m'en vouloir si je ne les cite pas. Mais en tout cas c'est cool et ça donne justement la tribune à tous ces comptes FR pour pouvoir s'exprimer en live, et c'est toujours intéressant aussi. Voilà, et j'embrasse vraiment tout le monde et je souhaite évidemment que les Knicks gardent cet état d'esprit là, que l'on puisse avoir cette équipe d'underdog sur chaque match et qu'on prenne du plaisir à aller faire cette course au playoff.
En tout cas, juste pour terminer, moi, mon passage, ouais, le petit mot de la fin, je vous remercie de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir de parler d'Enix.
C'est parce plaisir.
Avec Sport US Travel, on est un peu neutre, on se doit d'être un peu neutre. Donc,
mais on sait de quel côté ton cœur balance quand même.
Voilà, exactement. En tout cas, je tiens à faire un signe chaleureux à toute la Knicks Nation France, tous les gens que j'ai connus au début à la création, et surtout vraiment féliciter ce que vous faites, parce que la reprise n'était pas forcément évidente. Je trouve que vous avez continué à innover, à proposer des choses, à fournir énormément de travail aussi, plus que ce qu'on en faisait à l'époque. Vous avez vraiment cimenté la communauté. Donc pour ça, félicitations à l'association, à Knicks Nation France. Continuez à fédérer autour de ce qui vous porte. Et voilà, je voulais juste avoir ce message-là parce que pour moi, c'était important de vous féliciter pour votre travail parce que je sais que c'est énormément d'implication et quand on a des vies à côté, c'est pas toujours évident. Et vous le faites et vous le faites très, très bien. Donc, bravo les gars. Et ça a été un plaisir pour moi de partager
Merci
ce moment avec
pour
vous.
Merci ton message. Et puis, nous, on a qu'une envie, hein, c'est de pouvoir repartir ensemble à ce fameux Madison Square Garden pour aller vibrer ensemble. On a vibré déjà il y a pas mal de... sur pas mal de voyages avec un petit bout de la communauté, donc on a hâte de pouvoir repartir avec SUT une fois qu'on aura mis un petit peu de côté ces histoires de Covid là, qui nous ont plus qu'embêtés sur ces derniers mois. Donc en tout cas, un message aussi chaleureux et d'encouragement pour SUT, pour continuer notre partenariat ensemble sur encore de belles saisons à venir. Et puis voir une équipe compétitive à New York, quoi de mieux pour vibrer. Donc, merci en tout cas pour ta participation. Puis, on se retrouve très bientôt.
En tout cas, il n'y a plus qu'à vous remercier.
Ça marche, à bientôt les gars, merci beaucoup.
Merci Laurent.
Il n'y a plus qu'à vous dire, les gars, on ne lâche rien. Nix un jour, Nix toujours. Et peut-être le goût des playoffs à la fin de l'année. Voilà, je vous remercie et à très bientôt pour un nouveau numéro de The Nix épisode. Ciao les gars.
Bonne fin de saison. Allez.
Ciao les gars.
Ciao ciao.
I always will be a Nick, always will be a New Yorker. Thank you very much.
Hope you're ready for the next episode. Hey.